Session de philosophie par le père Marie-Dominique Philippe le 6 juillet 93 à Saint-Judard.
Normalement, le soir, je voulais qu'on fasse un peu plus de théologie. Mais je crois qu'il faut aussi avancer ce que nous avons commencé de faire. Alors, ce soir, je ne ferai pas de théologie. Je terminerai le plus rapidement possible cette petite topique qu'on a commencé ensemble. C'est-à-dire voir quelques positions encore au point de vue philosophique sur le problème de l'existence de Dieu. Voyez, je voudrais avec vous pouvoir regarder très rapidement la position de Luther, la position de Descartes, la position de Kant, Hegel. Oui, c'est quand même énorme, hein? Alors, la position de Luther, c'est une position de théologien qui, je crois, plus on avance, plus on voit que Luther a joué un rôle très important dans ce problème de l'intelligence. Donc, Luther, vers 1483-1546, Luther apparaît, donc avec Luther apparaît une attitude très nouvelle à l'égard de la connaissance que nous pouvons avoir des sens de Dieu. Pour Luther, en effet, la sagesse qui considère les choses invisibles de Dieu, les invisibilia Dei, Romains 1, 20, telles qu'elles sont comprises à partir de ses œuvres, ça c'est de Luther, enfle, aveugle, endurcit totalement. Manière dont il commente, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, c'est quand même très important, ceci controverse de Heidelberg, mai 1518. Il dit ceci, il reste donc un remède tel que l'on soit guéri, non en satisfaisant la convoitise, mais en l'éteignant. La convoitise, c'est la convoitise de la curiosité, de la connaissance, de la recherche de vérité. Ce que nous mettons, nous, sous le titre de recherche de vérité, c'est une convoitise. Mais en l'éteignant, c'est-à-dire que celui qui veut devenir sage ne cherche pas la sagesse en progressant, mais qu'il soit rendu fou en cherchant la folie, c'est-à-dire en reculant. C'est là la sagesse qui est folie pour le monde. On ne peut appeler à bon droit théologien celui qui considère que les choses invisibles de Dieu peuvent être saisies à partir de celles qui ont été créées. Cela, dit-il, est patent si l'on se réfère à ceux qui ont pris cette attitude et qui sont pourtant appelés insensés par l'apôtre dans les Romains. D'ailleurs, les choses invisibles de Dieu sont la force, la divinité, la sagesse, la justice, la bonté, etc. La connaissance de toutes ces choses ne rend digne ni sage. Mais plutôt, celui qui saisit les choses visibles et inférieures à Dieu en les considérant à partir évident, une position mystique. La seule sagesse, c'est la sagesse de la croix, c'est-à-dire la folie des hommes, et c'est-à-dire l'acceptation de la non, du rejet de toute curiosité de l'intelligence. Je vous lis encore quelques passages, parce que c'est important de comprendre ça. Corrompue par le péché, l'intelligence humaine, ou mieux la raison, c'est la plus grande des prostituées du diable, à qui il faut rejeter de l'ordre, à qui il faut jeter de l'ordure à la face, car elle ne peut que blasphémer, déshonorer toutes les paroles et les actes de Dieu. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que l'identification de l'intelligence et de la raison. Donc ça, il faut le comprendre. C'est quand même très important de comprendre cette attitude. Tout acte d'intelligence est de l'orgueil. Donc la future, c'est une putre chose de vérité. Lisez. Les choses, dit-il encore, c'est toujours ce fameux passage des controverses de Heidelberg. Les choses inférieures et visibles de Dieu sont les opposés des invisibles. Ce sont l'humilité, la faiblesse, la folie. Comme 1 Corinthiens appelle la faiblesse et la folie de Dieu. En effet, parce que les hommes ont abusé de la connaissance de Dieu, tiré de ses œuvres, tu as voulu au contraire être connu par ses souffrances. Il a réprouvé cette science des choses invisibles par la connaissance des visibles, de telle sorte que ceux qui n'ont pas adoré Dieu, manifesté par ses œuvres, l'adoreraient dans ses souffrances, comme il dit aux Corinthiens. Parce que le monde n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, de telle sorte qu'il n'est suffisant ni profitable à personne de connaître Dieu dans sa gloire et sa majesté, s'il ne le connaît pas aussi dans l'humilité, l'ignominie de la croix. Il perd ainsi la sagesse des sages. Comme le dit Isaïe, tu es vraiment un Dieu caché. Mais c'est un aspect mystique, il faut comprendre du reste. Mais de cet aspect mystique, il y a l'absolu, le péché, conséquence du péché originel, détruit l'intelligence. Mais je crois qu'il faut se rappeler le symbolisme de la bête de la mer. Elle a 7 têtes, mais une tête blessée à mort. Elle-même ressuscitée. Philosophie hegelienne. C'est une connaissance symbolique, hein, donc, interprétation. Je continue de parler un tout petit peu de ça. C'est quand même très impressionnant. La plus grande des prostituées du diable. Dieu demeure totalement inaccessible à la raison humaine. Et les philosophes qui se tournent vers les choses sensibles se laissent prendre à leur charme et conçoivent à leur image les réalités spirituelles. C'est pourquoi on ne fait pas de théologien sinon sans Aristote. C'est Aristote, évidemment, qui est le bouc émissaire. Donc, il peut y avoir un théologien, mais qui ne se sert pas de la raison, qui ne se sert pas de l'intelligence, qui simplement décrit. La seule théologie sera l'exégèse. Je vous lis encore ce passage. Ainsi, Jean 14, 8, comme Philippe disait conformément à la théologie de la gloire, montre-nous le Père. Christ retint aussitôt conduisait Philippe à chercher Dieu ailleurs. Il dit « Philippe, celui qui me voit, voit aussi mon Père. » Donc, c'est en Christ crucifié qu'est la vraie théologie et la connaissance de Dieu. C'est juste au point de vue mystique ce qu'il dit constamment. Alors, je vous lis encore quelques passages. Solida delectatio, qui pense donner l'expression exacte de la théologie luthérienne, parle de la corruption profonde, pernicieuse, effrayante, insondable, inexprimable, de toute la nature et de toutes les forces de l'homme, en particulier des facultés de l'homme les plus élevées et les plus nobles, de l'intelligence, du cœur et de la volonté. Dans sa controverse sur la théologie scolastique, Luther rejette la conception d'un amour naturel de Dieu pour Dieu, défini comme velle deum, esse deum, et rapporte à la grâce seule cet amour d'amitié. Velle Deum, vouloir Dieu, être Dieu. Toute recherche de Dieu par la connaissance, c'est un orgueil qui veut être égal à Dieu. Alors vous voyez, derrière, il y a toute une conception d'intelligence, toute une conception de l'analogie. Et ça, je crois que c'est très important de la comprendre. C'est que l'intelligence, c'est le reflet. Donc, similitude. Si je connais Dieu, je suis semblable à lui. Et l'analogie n'est conçue non pas comme d'abord la diversité et dans la diversité quelque chose de semblable, mais l'analogie est conçue comme une similitude. Le Père similitudem. Ça, je crois que c'est très important. Parce qu'on retrouve cela dans la conception de Karl Barth, qui dit « l'analogie, c'est le diable ». Alors, je crois que c'est la corruption de l'analogie. Alors ça, j'en dis un mot, parce que je crois que c'est très important. L'analogie au sens aristotélicien, le plus pur, au sens de Saint Thomas, le plus pur, c'est diversant. Aristote dira « allo, allo ». Ah, c'est pour que chaque fois vous téléphonez. Autre, autre. Simplicitaire diversant. Voilà l'analogie. Simplicitaire diversant, autre, autre. Et à l'intérieur de autre, quelque chose d'un, quelque chose de commun. On dira, Dieu est sage, l'homme est sage. La sagesse attribuée à Dieu est totalement différente de la sagesse attribuée à l'homme. Et cependant, il y a quelque chose de commun. Donc, simpliciter diversa, c'est-à-dire absolument diverse. Je me souviens, c'est des choses qu'il ne faut jamais oublier, quand je disais ça dans les petites conférences que je fais à Paris, que l'analogie c'est autre, autre, complètement divers. Quand je dis la sagesse attribuée à Dieu est totalement autre que la sagesse attribuée à moi-même, il y a seulement quelque chose de commun. Après la conférence, c'était un bon théologien qui était là. Il dit, mon père, vous exagérez. L'analogie, c'est une similitude. Je dis, ah non. théorie suarésienne. Ce n'est pas la théorie de saint Thomas. C'est très très important, vous voyez, parce que c'est ça qui a mis en boule, il faut le dire, quelqu'un comme Luther. Pour sauvegarder la transcendance de Dieu, il y a un aspect mystique chez Luther. Il ne faut pas l'oublier. Et la scolastique décadente, elle met Dieu dans un concept. D'où la violence contre cette scolastique décadente. Et cette scolastique décadente par rapport à Dieu, c'est parce que ce simpliciter diversa, absolument divers, autre, quelque chose de commun, a été transcrit de cette manière. L'analogie, c'est quelque chose de semblable. Et divers. Oui. Le quelque chose de semblable est antérieur à la diversité. C'est une similitude. Donc entre Dieu et moi, il y a une similitude. La similitude de la sagesse. Il y a quelque chose de commun. On va voir ça avec Descartes. Et on comprend très bien cette alors fureur. Vous voyez, c'est absolument divers. Pourquoi ? Parce que en Dieu, c'est infini. Et en nous, c'est fini. Entre l'infini et le fini, c'est simpliciter diversa. Absolument divers. Il faut comprendre la situation de Luther. Évidemment, il est très violent, mais il est passionné. C'est un homme passionné, Luther. Il avait le tempérament d'un mystique. C'est un moine, un religieux. Qui a eu l'intelligence pervertie. Ça, c'est sûr. Dans la nature à l'égard de Dieu, il y a seulement un amour de concupiscence, mauvais dans tous les cas. L'amour naturel de Dieu, en vertu duquel, selon la formule de Biel, la volonté humaine du Viator pourrait par ses propres forces naturelles aimer Dieu par-dessus tout, n'est pour Luther qu'une fiction. Terminus fictus. Sicut chimera. Je crois que c'est très important de comprendre ça. Donc on est en face d'une position, mais très radicale, qui consiste à dire l'intelligence humaine, tout ce qui vient d'intelligence humaine est erreur. Donc ne lions pas l'intelligence et la foi. Sola fide. C'est ça le sola fide. Alors évidemment, c'est pas commun à comprendre, puisque selon toute la tradition, la foi est reçue dans l'intelligence. Donc chaque fois que vous faites un acte de foi, vous faites un acte d'intelligence. Alors si votre intelligence est radicalement corrompue, pouvez-vous encore poser un acte d'intelligence pure, un acte de foi pure ? Pour poser un acte d'intelligence pure, il faudrait que l'acte de foi puisse s'exercer indépendamment de l'intelligence. Pouvez-vous poser un acte de foi indépendamment de l'intelligence ? Voilà la grande raison qu'il faut décider, qu'il faut. Alors, quand on dit ça, ils disent « Ah, c'est le mystère !» Très bien. Alors, je pousse jusqu'au bout. La nature est corrompue, c'est ce qu'ils disent. La nature est donc, c'est la grâce qui est une grâce substantielle. Il est impossible que la grâce soit substantielle, puisqu'elle est participation de la nature divine. Si vous dites que la grâce est substantielle, vous dites que vous êtes Dieu. Et vous arrivez à dire que la foi ressuscite l'intelligence. Et que par la foi, j'ai une intelligence divine. Vous voyez, c'est ce point qu'il faut bien saisir. Parce que je crois que ça, c'est capital. Il ne faut pas oublier la position de Luther, parce que ça joue un rôle. J'allais dire avant Luther et après Luther. Il serait très intéressant aussi de voir la position de Descartes. Alors, la preuve de l'existence de Dieu chez Descartes, c'est paru dans la revue philosophique de l'Université libre des sciences de l'homme. Numéro 13, Descartes, et la page 66, petit article sur l'existence de Dieu chez Descartes. De plus, puisque je connais des perfections que je n'ai pas, je ne suis pas seul à exister. Il faut nécessairement qu'il existe un autre être, plus parfait, dont je dépends. Car si j'avais été seul et indépendant, j'aurais pu me donner toutes les perfections qui me manquent. Vous voyez, preuve par impossible, ça ne prouve rien. Ça, c'est du bon Descartes. Considérant ensuite la certitude des vérités géométriques, c'est ça le point important chez Descartes. Je vous ai dit tout à l'heure que saint Thomas a considéré qu'il n'y avait pas de démonstration a priori de l'existence de Dieu. Descartes va relever cela en disant que les vraies preuves de l'existence de Dieu sont modo-géométrico. L'attraction des mathématiques. La vraie preuve de l'existence de Dieu, elle est comme des preuves mathématiques. Donc, a priori. Mais Descartes va jusque-là. Hein. Il ne faut pas l'oublier. C'est en ce sens-là que Sartre, qui a une mauvaise langue, dit Descartes est la source de tous les athéismes. Parce que ce qu'il dit de Dieu n'est plus Dieu. Il n'est pas bête. Hein. Il y a des phrases de Sartre sur Descartes qui sont farouches. Parce que Descartes parle d'un concept de Dieu. Le concept, vous voyez, il pousse saint Anselme jusqu'au bout. Alors, le concept de Dieu a une signification telle que l'existence lui appartient nécessairement. Donc, Dieu existe. Oui, comme le triangle, les deux angles droits. C'est une propriété du concept de Dieu d'exister. Donc, il existe nécessairement. Modo géométrico. Et vous voyez, Descartes, que tous les bons catholiques aiment tant. Une fois, je disais ça dans un salon de Lyon, avec des gens très très bien que je ne nomme pas. Ils ne sont pas ici. Et Descartes a joué un rôle terrible. Il a conduit à Sartre. On va dire, mais non, c'est impossible, Descartes, il est croyant, ça. Il défend la foi. Oui, mais faussement. Il fausse tout. Il fausse tout. Et c'est pour ça que quand Sartre dit ça méchamment, il dit ça dans sa prière. préface sur la méthode, sur le discours sur la méthode, dans une petite édition sur la liberté. Et oui, il a un jugement extraordinaire là-dessus. Ça m'a fait comprendre Sartre. Oui, on comprend toujours mieux un philosophe quand il critique un autre, parce qu'il y a le venin. Alors on découvre comme ça tout de suite. Tout de suite. C'est une des choses les plus astucieuses, là. Voir Sartre contre Descartes. Il le pique au bon endroit. Avec son venin de Sartre. Parce qu'il y a un venin, c'est évident. Alors, considérant ensuite la certitude des vérités géométriques, Descartes la compare à celle de l'existence de Dieu. Si je suppose un triangle, il faut nécessairement que ces angles soient égaux à deux droits. Cependant, rien ne m'assure qu'un tel triangle existe dans la réalité. C'est sûr. Tandis que, dans l'idée que j'ai d'un être très parfait, l'idée que vous avez d'un être très parfait, l'existence même de cet être est comprise de la même façon. Plus évidemment encore, qu'il est compris dans l'idée d'un triangle que ces trois angles sont égaux à deux droits. Par conséquent, il est au moins aussi certain que Dieu, qui est cet être parfait, existe, qu'aucune démonstration de géométrie peut l'être. L'existence des réalités sensibles est beaucoup moins certaine que celle de Dieu. Quand je touche cette table, c'est beaucoup moins évident que l'existence de Dieu. Donc tous ceux qui nient l'existence de Dieu sont des purs imbéciles. Forcés. Mais quand je dis que cette table n'existe pas quand même, hein, difficile. Que ces arbres que je vois n'existent pas, difficile. Et il le dit, hein, c'est quand même très significatif. L'existence des réalités sensibles est beaucoup moins certaine que celle de Dieu. Bien plus, le doute qui plane sur elle ne peut être levé que si l'on présuppose l'existence de Dieu. Ça, c'est le comble de Descartes. Il se sert de Dieu pour prouver l'existence des réalités que je touche. Vous voyez la confusion. C'est évident que tout ça n'existerait pas si Dieu n'existait pas. Tout à fait d'accord avec Descartes. Mais autre chose est l'exister, autre chose la connaissance que j'ai d'exister. Les connaissances sensibles, je les connais directement grâce à mes sens. Je suis en connaturalité avec le monde physique. Avec Dieu, ma connaturalité. Du temps, parce que je suis un être limité et Dieu est transcendant. On tremble devant la transcendance de Dieu. Ce lieu est terrible. Dieu est présent. Pauvre petit bonhomme, tandis que vis-à-vis des qualités sensibles, on caresse un chat, c'est sensible. Tandis qu'une réalité purement spirituelle, une réalité qui m'échappe complètement par rapport au monde sensible, je ne suis pas en connaturalité. Je serai en connaturalité avec la grâce, mais pas avec ma sensibilité. Le doute qui plane sur elle ne peut être levé que si l'on présuppose l'existence de Dieu. Car le critère de certitude clarté et distinction des idées qui avaient été précédemment pris pour règle n'est assuré qu'à cause que Dieu est ou que Dieu existe et qu'il est un être parfait et que tout ce qui est en nous vient de lui. Voilà le grand critère de vérité et de certitude. Et confusion ou blocage, si vous voulez, entre un éligibilité et exister. Dieu est un omniprésent du côté de son existence. Mais je ne peux pas dire que Dieu est la réalité première, la plus évidente pour moi. Parce que je n'ai pas une expérience directe de Dieu. C'est dans la troisième méditation que Descartes va développer ce qu'il considère comme son principal argument pour prouver l'existence de Dieu. Et cela sans avoir recours à aucune comparaison tirée des réalités corporelles, afin d'aider le lecteur à s'abstraire le plus possible des sens. Étant donné que les sens sont trompeurs, Descartes a très peur du sens. C'est pour ça qu'il n'est pas un artiste du tout. Puisqu'il a été reconnu précédemment que tout ce que l'on sent ou imagine n'est peut-être rien en dehors de celui qui sent ou imagine. Quant aux réalités arithmétiques ou géométriques, la seule raison que Descartes aurait d'en douter serait qu'un Dieu lui est donné une nature telle qu'il se trompa même dans les choses les plus manifestes. Je ne peux pas me tromper, sauf si Dieu alors veut que je me trompe. Mais je ne peux me tromper que si Dieu veut que je me trompe. Autrement, je ne peux pas me tromper en mathématiques, en arithmétique. C'est de l'évidence. Dans les sens, c'est différent. C'est différent. Et c'est très très curieux. Descartes veut qu'on marche sur sa tête. Hein. Parce que comme ça, on aurait l'avantage de ne plus toucher le sol. Et on aurait que les idées. Tout part des idées innées. Alors vous voyez, c'est là où Descartes dit cette chose que je crois qu'il faut absolument retenir. Je tourne le dos à Aristote. Pour Aristote, l'ordre des deux grandes interrogations, c'est cela existe-t-il ? Cela existe-t-il ? Eis, esti. Et qu'est-ce ? Qu'est-ce cela ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cela ? Ti, esti. Donc pour Aristote, c'est un et deux. Pourquoi ? Parce que je ne peux comprendre, mon intelligence s'éveille devant les réalités existantes. Toute réalité existante éveille mon intelligence. Et je ne fais la philosophie que des réalités existantes. Donc il y a cet ordre-là. Et Descartes dit non, il faut inverser cet ordre. 1, 2. La grande question, c'est la signification des idées, puisque les idées sont innées. Donc c'est la grande question. Après, je me pose la question, est-ce que ces idées existent ? Alors vous voyez, c'est très curieux. L'artiste a une idée. Il la réalise. Alors on trouve chez Descartes cet aspect de l'idée artistique qui est antérieure à l'œuvre. Mais il fait cela non seulement de la connaissance pour l'artiste, mais pour toute connaissance. Autrement dit, c'est moi qui crée tout. C'est moi qui donne au monde sa signification. Et vous retrouverez ça dans certains textes de Husserl. Parce qu'il est très dépendant de Descartes. La signification relève tout simplement de ma connaissance des choses. Le monde par lui-même n'a aucune signification. C'est moi qui donne au monde sa signification. Quant aux réalités arithmétiques et géométriques, la seule raison que Descartes aurait d'en douter serait qu'un dieu lui ait donné une nature telle qu'il se trompât même dans les choses les plus manifestes. C'est afin de pouvoir éliminer tout à fait cette raison de donner. C'est afin de pouvoir éliminer tout à fait cette raison de douter que Descartes doit examiner s'il y a un Dieu, sitôt que l'occasion s'en présentera, et au cas où Dieu existe, examiner s'il peut être trompeur. Car sans la connaissance de ces deux vérités, aucune certitude ne sera possible. Voilà. Toute certitude repose sur l'existence de Dieu, et que Dieu ne peut pas me tromper. Et comme c'est curieux, c'est exactement la connaissance de foi, ça. La foi, c'est Dieu qui m'illumine. Et je sais que Dieu ne peut pas me tromper. Et donc je crois. Et pour Descartes, c'est toute connaissance. Donc chez Descartes, identification de la certitude que je peux avoir en philosophie avec la certitude de la foi. Identification des deux. Et l'influence de Luther, sans que ce soit dit. Alors maintenant, je passe vite. Il y aurait Kant. Kant, c'est quelque chose de très spécial. Vous savez ce que dit Clavel? Clavel qui était un amoureux de Kant, vraiment un amoureux de Kant, qui s'est converti, une conversion très étonnante. Je connaissais beaucoup d'amis de Clavel, c'est pour ça que je peux dire ça. Je ne l'ai pas vu, moi. Ses amis voulaient tout prix que je le vois. Si c'est pas la peine, il est qu'ancien. Alors on aurait dialogué, je ne sais pas trop comment. Au point de vue de la foi, on serait retrouvés. Et Clavel dit ceci. J'ai mis une peine énorme quand je passais mon agrégation à entrer dans Kant et je n'en suis jamais sorti. Même le coup de grâce qui lui a redonné la foi, il avait l'air resté qu'ancien. C'est très très curieux ça. Tellement le point de vue de Kant, qui est un point de vue pratique, supprime toute connaissance spéculative. Kant, 1724-1804, oui, tout proche de nous, quoi. Si l'on ne peut pas démontrer Dieu dans une perspective simplement théorique, d'abord, on ne dit pas démontrer Dieu, hein. Démontrer l'existence d'un être premier qu'on appelle Dieu. Si l'on ne peut pas démontrer Dieu, c'est Kant qui parle, dans une perspective simplement théorique, parce que suivant cette voie, aucune connaissance du suprasensible n'est possible. Donc c'est net. Aucune connaissance du suprasensible n'est possible. Donc je ne connais que le sensible. En revanche, on peut y réussir suivant une voie pratique, celle du concept de liberté. Ça c'est très important, puisque je vous ai dit, hein, table ronde organisée par les éditions du CERF, il y a quelques années, Conclusion, la seule démonstration qui reste possible pour l'existence de Dieu, c'est celle de Kant. C'est intéressant à voir ça. Mais il faut voir alors la manière dont Hegel et Nietzsche, alors, boulet rouge, que je n'oserais jamais dire moi, boulet rouge contre Kant, le fossoyeur de l'intelligence. Parce qu'il n'y a plus de connaissance, il n'y a plus de connaissance pratique. Donc un seul concept en effet est capable de conduire la raison au-delà des limites à l'intérieur desquelles tout concept naturel, théorique, doit demeurer enfermé sans espoir. C'est le concept de liberté comme concept fondamental de toutes les lois pratiques inconditionnées. Ici, le suprasensible qui se trouve au fondement de la liberté fournit grâce à une loi déterminée de causalité qui en est issue. Non seulement la matière pour la connaissance de l'autre suprasensible, du but final moral et des conditions de sa réalisation, mais encore montre dans les actions sa réalité en tant que fait. Un fait. Ainsi, le concept de liberté est le seul grâce auquel nous puissions, sans sortir de nous-mêmes, trouver, pour le conditionné et le sensible, l'inconditionné et l'intelligible. Oui, la liberté sera le lieu de rencontre du conditionné, moi, pour petit être contingent, et l'inconditionné, l'être non contingent, Dieu. Il faut bien comprendre ça. Ben, n'oubliez pas que l'exaltation de la liberté a été faite par Descartes. Descartes considère que ma liberté, le concept de liberté que j'ai en moi, concept inné, est semblable, per similitudem, l'analogie per similitudem avec la liberté de Dieu. Donc il y a un contact entre, pour Descartes, entre moi et Dieu par ma liberté. Par ma liberté, je suis Dieu. Et donc je découvre Dieu. Très très intéressant, par ça. Certains diront que c'est l'expérience mystique de mon infini, de ma liberté, qui me permettra de prouver que Dieu existe. Ça se dit, ça. Ainsi, le concept de liberté est le seul grâce auquel nous puissions s'en sortir de nous-mêmes, donc dans l'immanence. On découvre un Dieu immanent. Trouver pour le conditionné et le sensible, c'est-à-dire moi, l'inconditionné et l'intelligible, c'est-à-dire Dieu. Et la loi morale, qui est une loi de la causalité par liberté, ça faudrait le souligner 36 fois, parce que c'est très intéressant. Vous voyez, le fondement de la morale, la loi morale, qui a une loi de la cause, la loi morale, qui est une loi de la causalité par liberté, partant une loi de la possibilité d'une nature suprasensible, conduit à postuler l'existence de Dieu. À postuler, c'est-à-dire Dieu est possible. Alors, encore un petit peu. Cette voie pratique peut se résumer brièvement ainsi. Une volonté déterminée par la loi morale doit réaliser dans le monde le souverain bien dont les éléments sont premièrement la moralité et en second lieu le bonheur. Or, c'est un raisonnement, hein? Or, il n'y a dans la loi morale aucun principe de connexion nécessaire entre la moralité et le bonheur. Mais puisque nous devons chercher à réaliser ce souverain bien, il doit être possible. Or, il n'est possible dans le monde qu'en tant qu'on admet une cause de toute la nature, distincte de celle-ci et contenant le principe de l'harmonie du bonheur et de la moralité. Le principe de l'harmonie du bonheur et de la moralité. Cette cause suprême doit avoir une causalité conforme à l'intention morale. Elle est donc un être qui, par l'entendement et la volonté, est la cause, partant l'auteur de la nature, c'est-à-dire Dieu. Je ne sais pas si ça vous donne une conviction intérieure. Mais vous voyez, c'est extrêmement curieux. Donc, toute obligation morale. L'obligation morale, c'est la rencontre du bonheur et l'acte moral. Je veux le bonheur. Nous voulons tous le bonheur. Nous sommes tous voués au bonheur. Ça, c'est normal. Donc, la connexion du bonheur avec tel acte moral me donne l'impératif catégorique. Il faut faire ça. Puisque je veux être heureux. Tous vous voulez être heureux. Moi je veux être heureux. Mais vous aussi. Là on est unanime, suffrage universel. Tel bien paraît. Ce bien est lié à ce bonheur, donc il faut le faire. Qu'est-ce qui va faire cette connexion dans la liberté morale? Un être supérieur. En qui bonheur et morale ne fait qu'un. C'est Dieu. Alors vous voyez, c'est assez affolant pour voir la totale obscurité de Kant. Kant critique l'argumentation de Descartes parce qu'il passe de l'intelligible, donc de l'intentionnel, de l'intelligible à l'exister. Il fait exactement la même chose au niveau intentionnalité morale. De l'intentionnalité morale où la finalité, le bonheur, se trouve unie à l'acte moral, il pose nécessairement une cause dans laquelle le bonheur est la liberté de Fourgain. Et c'est Dieu. Donc il fait exactement la même chose. De l'intentionnalité morale pousse l'existence à l'être supérieur. Je vous lis encore ce dernier passage. La réalité. Donc c'est toujours. C'est encore du Kant. La réalité. Auteur suprême, législateur moral, est suffisamment prouvé simplement pour l'usage pratique de notre raison, sans que l'on détermine quelque chose théoriquement par rapport à son être là. En effet, la raison pratique a besoin, pour la possibilité de sa fin, qui nous est d'ailleurs imposée, par sa propre législation, d'une idée permettant d'écarter l'obstacle constitué par l'impuissance de s'y conformer d'après le simple concept naturel du monde. Et cette idée reçoit, se faisant une réalité pratique, même si tous les moyens de lui en procurer une semblable au point de vue théorique pour l'explication de la nature et la détermination de la cause suprême font complètement défaut pour la connaissance spéculative. Ce que l'on peut dire, c'est donc, tout au plus, il est nécessaire, moralement nécessaire, d'admettre l'existence de Dieu. Théoriquement, je ne peux pas savoir si Dieu existe. Mais pratiquement, oui. Vous voyez, faisons attention, c'est tout à fait différent. Mais il y a une petite similitude avec le pari de Pascal. Je ne sais pas si Dieu existe, mais pratiquement, je fais comme s'il existe. C'est intéressant, tu vois, de voir ça. De voir qu'il y a là un passage de l'un à l'autre. Pas trop fatigué ? Quelle heure ? Combien ? 5 minutes. Oh, alors, très bien. On va rentrer dedans. Après ce Kant, il y a Hegel. 1770. 1831. Mais comme c'est proche de nous. Alors, après ça, Hegel, donc je vous ai dit, hein, il renvoie promener Kant comme le dernier des derniers. Vraiment, vraiment. C'est la bataille entre philosophes, c'est très très intéressant. Les renvoyer l'un contre l'autre. Dans la religion, dans les limites de la simple raison, Kant s'était proposé de donner une pure doctrine philosophique de la religion. Et cette doctrine venait en quelque sorte couronner l'œuvre des trois grandes critiques et consacrer le primat absolu de la raison pratique à laquelle la religion elle-même se trouvait entièrement subordonnée. À cette volonté d'élaborer une pure doctrine philosophique de la religion va faire écho, mais en opposition totale, le projet hegelien d'une philosophie de la religion qui, au-delà de la critique kantienne et des théologies qu'elle condamne et rend vaine, soit la véritable théologie, la connaissance de Dieu par l'homme. Voilà la véritable théologie, la connaissance de Dieu par l'homme et inséparablement la conscience que Dieu prend de lui-même dans l'esprit de l'homme. Alors c'est ça qui est très très fort. C'est fou, mais c'est très fort chez Hegel. Hein. Voyez bien ces deux affirmations. La connaissance de Dieu par l'homme, ou plus exactement, la conscience que Dieu prend de lui-même dans l'esprit de l'homme. Grâce à l'homme, tu as conscience de lui-même. C'est admirable, ça. C'est très fort, hein. Hegel estime, en effet, que si la religion met l'honneur mais l'honneur et le salut de l'homme en la connaissance de Dieu, si son bienfait consiste à lui avoir communiqué cette connaissance et dévoilé l'essence inconnue de Dieu, alors la philosophie de Kant, la philosophie critique de Kant, en refusant à la pensée humaine la possibilité de connaître Dieu, se trouve en opposition monstrueuse avec la religion. Également, ce qui est le plus monstrueux, c'est de refuser que l'intelligence humaine puisse atteindre Dieu. l'esprit y est déchu jusqu'à prendre la modestie de l'animal. Voilà comment il considère Kant. L'esprit y est déchu jusqu'à prendre la modestie de l'animal comme sa destination la plus haute. Donc il aboie. Ce qui est plus illustre dans l'homme, ce qui peut aucun Dieu, c'est d'aboyer. Instinctivement, quand il a peur. C'est très. Vous voyez, ça c'est égal et dur. Hein. L'esprit y est déchu pour Kant, jusqu'à prendre la modestie de l'animal comme sa destination la plus haute, avec cette seule différence qu'il possède malheureusement l'avantage d'avoir conscience de ce non-savoir. Évidemment, le privilège de l'animal, c'est de ne pas le savoir. En regard de cela, l'animal possède une modestie bien plus pure, véritable, la modestie absolument ingénue du non-savoir et de la non-conscience. Hegel va même plus loin. La fausse humilité de la critique kantienne est interdisant à l'esprit humain la connaissance de la vérité et la condamner au suicide. Et en dissociant au sein même de la profondeur de l'esprit le savoir et la foi, elle a ouvert la voie à tous les excès du sentiment subjectif, ce que Hegel horreur. Donc à partir de Kant, c'est le sentiment qui domine puisqu'il n'y a plus de connaissance. Alors, ayez le sens de la bonne odeur de l'encens qui dit Dieu est là. Il y a l'odeur de l'encens. C'est pieux. Et c'est cette horreur de Hegel par rapport à ce sentiment subjectif en matière de religion. Si en effet l'entendement se trouve devant le vide d'un Dieu que l'on a rabaissé au point de le rendre inconnaissable, si l'activité pensante n'a plus pour tâche que la vanité d'organiser un matériau fini, l'esprit qui ne supporte pas une telle vanité, n'a plus pour lui que l'aspiration, car ce en quoi il voudrait se satisfaire est un au-delà, sans figure, sans contenu, sans détermination. Aussi, le besoin de l'esprit n'a plus pour trouver satisfaction qu'une seule issue, être repoussé dans les sentiments. Le sentiment est désormais l'unique mode dans lequel la religion peut être présente. Et ça, c'est l'objection la plus grande. C'est très important de comprendre ça. Parce que ça fait comprendre l'opposition violente de Hegel par rapport au sentiment religieux. Et Kant a plongé la religion dans le sentiment. Il n'y a plus de connaissance. Le cœur. Il n'y a plus que le cœur. Il n'y a que le cœur. Alors si votre cœur bat plus vite, ah, Dieu est présent. Parce qu'il bat plus vite. Le sentiment. Et le rejet complet de toute intelligence. Dans l'élévation de l'esprit vers Dieu, la subjectivité de l'esprit se transcende, dit Hegel. Et elle est même par essence cet acte de transcender. Et le mouvement de la pensée coïncide avec le développement essentiel de l'esprit divin. De l'esprit divin se posant comme universel et comme universel en et pour soi. Si bien que prouver n'est rien d'autre ici que prendre conscience du contenu particulier à l'intérieur de l'universel en et pour soi. voir comment ce vrai absolu est le résultat, et par là la vérité, de tout contenu particulier. Autrement dit, prendre conscience de la nécessité de la vérité absolue comme résultat dans lequel toute chose retourne dans l'esprit. Mais l'esprit se pense en lui-même, parce qu'il reprendra la parole de l'Aristote. Aristote dit que Dieu se pense lui-même. Et pour Hegel, Dieu se pense lui-même. Donc, la conclusion dernière d'Aristote par rapport à Dieu est le point de départ de Hegel. C'est très très curieux. Hein, ces deux grands philosophes, ce qu'on peut dire, c'est les deux grands génies philosophiques de l'humanité. Il faut reconnaître. Hegel est génial. À tel point, vous voyez, que certains, c'était le bon père Dominique Dubarl, qui disait « on ne peut pas critiquer Hegel ». Bien, la critique de Hegel, pour moi, elle est très simple. Il commence par la conclusion d'Aristote. Alors, tout est dit. Il faut que vous ayez compris ça. Parce que pour Aristote, sa conclusion, c'est le propre d'un esprit infini. Un esprit infini ne peut que se penser lui-même, mais un esprit limité, ah non, il est ordonné à l'être, parce que l'être est antérieur à lui. Mais si l'esprit était infini, il serait l'être infini, donc il n'a plus qu'à se penser. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que la conclusion d'Aristote sur l'être infini, sur Dieu, est le point de départ de la philosophie hegelienne. Alors là, vous comprenez, hein, le lien de Hegel et d'Aristote. Aristote considère que, je veux dire, Hegel considère qu'Aristote, c'est le grand philosophe. Avant lui. Après, c'est lui. Et donc, Aristote est le sycomore de Hegel. Vous voyez bien, grâce au sycomore,